Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le spina bifida et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Vintras, qui est maman d'une jeune femme touchée par la maladie et présidente de la FFASB, la Fédération française des associations pour le spina bifida. Madame Vintras, bonjour.
Bonjour.
Madame Vintras, on l'a dit, vous êtes maman d'une jeune femme qui est touchée par un spina bifida. Comment se sont passées la découverte de la maladie et les premières années de suivi ?
Ma fille est donc est née il y a 32 ans en clinique à Paris. Et nous avons découvert un gros problème au moment de la naissance. Autant dire le choc. Et puis on suivit des difficultés, beaucoup de difficultés à identifier ce dont il s'agissait et les implications. Donc, je me souviens d'une errance de 2 à 3 mois auprès de médecins de ville, puis hospitaliers. Et après plusieurs rendez-vous et examens, donc radio, scanner, IRM et j'en passe, nous avons été orientés vers Saint-Vincent-de-Paul, puis Necker. Et voilà, on savait à peu près ce dont il s'agissait sur le moment. Donc, la première opération de la moelle a eu lieu à 6 mois pour ma fille, puis une deuxième intervention à 9 mois. Car il a fallu réopérer et puis c'était déjà angoissant, mais c'était de pire en pire quand on s'est trouvé vite embarqué dans un circuit hospitalier sans fin, sans beaucoup d'informations sur ce qui allait lui arriver. Donc voilà, une errance mais c'était il y a 30 ans, je pense qu'aujourd'hui il est plus facile d'identifier ce type de pathologie.
Et quelques années plus tard, vous avez quitté Paris pour vous établir dans le Dauphiné. Quelles ont été les implications sur le suivi de votre fille ?
Bien, après la deuxième opération, donc ça date de 1991, hein, la deuxième opération, nous avions eu un pronostic assez optimiste. Pas de désordre neurologique apparent, donc tout allait bien se passer. Donc il fallait juste surveiller. Et bien nous, en famille, on a décidé de quitter Paris pour des raisons professionnelles et d'accepter un poste en province, persuadée d'être débarrassée de tous les soucis médicaux. Or, des complications sont apparues au fur et à mesure de la croissance, et notamment au niveau de la marche, du contrôle des sphincters, etc. En province, à 1h30 de Lyon et de Grenoble, enfin mi-chemin entre les deux, nous avons eu des difficultés à trouver une prise en charge adaptée et les conseils qu'on recherchait. Donc, seuls des initiés connaissaient en fait les malformations spinales. Donc, moi ou mon mari étant perpétuellement en rendez-vous sur Lyon, en service MPR, en urologie pédiatrique, etc., à jongler avec nos boulots respectifs. Et nous avons dû déménager plus près de Lyon, donc changer de travail et nous installer près du centre spécialisé sur Lyon Sud qui gérait ce type de malformation. Alors, le suivi médical s'est vite alourdi. Une troisième opération a eu lieu. Elle avait 8 ans, ma fille, et les difficultés sont vraiment, vraiment accentuées pour la rééducation, pour le suivi, pour la prise en charge globale, car de spécialiste à spécialiste, il était difficile de cerner ce qui se passait, avec des contraintes énormes sur la scolarité, car il faut bien compenser les absences à l'école, s'intégrer en primaire, au collège, malgré les absences répétées. Enfin, c'est un challenge, quoi. C'était le gros challenge pour essayer de vivre normalement, malgré ou avec le handicap qui s'installait. Et puis, on devait aussi s'occuper, bien évidemment, de notre fils qui est plus jeune. Donc, voilà, tout ça, c'est une période bien difficile. Et bon, alors l'école, l'éducation nationale ont évolué avec les lois sur l'intégration et le handicap. Bon, petit à petit, on a avancé et puis on en est aujourd'hui à l'intégration, à l'insertion professionnelle.
Et aujourd'hui, comment vit-elle avec cette maladie ?
Alors aujourd'hui, avec la maturité, ça va, je dirais, c'est aussi bien que possible. Enfin, c'est moi qui le dis. Il faut dire qu'elle a mené bien des combats, traversé des galères au niveau de l'école, avec toutes les galères et les errances des diagnostics contradictoires médicaux, et des errances parce qu'un médecin s'en va, il faut le remplacer, il faut trouver un remplaçant, etc. Donc bon, au point de vue suivi médical, c'est toujours un peu lourd. La santé n'est pas au top, mais elle gère. Et puis grâce au sport, dit-elle, car la découverte du handisport il y a quelques années l'a métamorphosée. Donc elle vit bien, oui. Elle se fait du bien avec le tennis et l'équitation handisport. Et il faut dire que bon, elle fait bouger les lignes. Notre fille, elle a gagné. On a gagné ensemble la partie à l'école, la partie des études supérieures, et elle a gagné, je pense, à sa force de caractère, son insertion professionnelle, justement la partie de l'insertion professionnelle qui a été pleine de découvertes. Alors aujourd'hui, pour revenir sur votre question, le bilan est positif. Parce qu'elle est en emploi, en communication, c'est ce qu'elle voulait, en CDI, à Lyon, proche de chez elle. Elle vit en couple et elle sera bientôt maman. Donc là, elle a juste hâte de pouvoir rebouger un peu et de reprendre le sport. Mais ça va plutôt bien.
Alors, Madame Vintras, vous avez été très impliquée auprès de votre fille et dans le milieu associatif pendant toutes ces années. Quelles avancées est-ce que vous avez pu observer au cours de ces 30 dernières années ?
Il y a eu indéniablement des progrès dans le dépistage néo-périnatal, on y est. Il y a eu la mise en place des filières de santé maladies rares, la mise en place des centres de référence, centre spina bifida, et le maillage national, régional de ces centres permet de trouver de l'information plus facilement aujourd'hui. Ça permet d'identifier les spécialistes dont on a besoin, de communiquer sur les protocoles de soins, par exemple, des protocoles adaptés à certains dysfonctionnements. Et ça, c'est diffusable aux médecins généralistes, donc c'est très aidant. L'information, je dirais, circule davantage et cela permet de vaincre l'isolement face à une maladie ou une malformation quand l'annonce nous tombe dessus. Donc, le travail qui a été fait par la filière, enfin celle que je connais le mieux, c'est Neurosphinx, est immense ces dernières années, quand je sais ce qui nous a manqué à nous durant notre propre parcours. Donc, il nous avait manqué, mais nous avons aujourd'hui la cartographie des centres experts, même si on n'en trouve jamais suffisamment proche de chez nous. La mise en lien et la mise à jour de ces centres experts, là où on peut trouver des spécialistes, est très importante. Ça a permis aussi les filières de santé de parler des problèmes que l'on rencontrait en tant que patient ou en tant que famille, parents, des problèmes qui n'étaient pas abordables ainsi, et de rendre plus facile peut-être l'acceptation. Alors, je donnerai quelques exemples. Dans la filière, on a mis en avant les problèmes de l'annonce du handicap, de la place des parents dans le suivi médical, des problèmes de transition entre les différentes périodes de vie. Donc, tout ça, c'était important de mettre en mots. Et les filières ont permis, enfin les rendez-vous, les réunions de filières ont permis de mettre ces problèmes-là en avant, de les aborder en dehors d'un cercle très fermé d'initiés, je dirais. Donc, les problèmes urinaires, la sexualité, la maternité, la transition, l'aide psychologique, etc. Tout ça, ça a permis de les mettre sur la table. Alors bien sûr, il y a encore à faire, car le milieu hospitalier est malmené. Les moyens manquent pour les soins partout en France. Des lieux de soins disparaissent ou sont optimisés. Il est bien évident que les maladies rares ne seront pas mieux traitées que d'autres services, car peut-être pas assez rentables. En tout cas, la vigilance est de mise pour ne pas perdre les acquis de ces dernières années, en tout cas les acquis en termes de circulation de l'information. Et il ne faudrait pas se disperser, car l'important, c'est la prise en charge adaptée à chaque patient. Et puis aussi, je dirais qu'il faut continuer les recherches ou les études sur le spina bifida et les maladies associées, car sans études, sans recherche, on ne peut pas évoluer non plus dans le suivi, l'identification des soins.
Vous êtes aujourd'hui présidente de la Fédération française des associations spina bifida. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre démarche ?
Je dirais le besoin d'information. Je pense que être dans une association, ça permet de voir ou de faire circuler l'information, le besoin de se faire entendre aussi et de faire des propositions. Alors, on parle aujourd'hui de patients experts ou de parents experts qui auraient leur rôle dans les parcours de soins. Alors oui, patients et parents sont intimement liés et au sein d'une association, l'expertise, elle circule justement. On se sent moins seul, on ressent moins ou la pitié ou la compassion et on est juste à égalité, sans jugement. Et on peut échanger sans préjugés. Je pense que c'est important et c'est pour moi le rôle des associations.
Et pour conclure notre entretien, Madame Vintras, quelles sont à vos yeux les priorités actuelles pour les patients qui sont touchés par un spina bifida ?
Beaucoup de travail. Donc, je dirais que c'est, il me semble, la simplification des parcours de soins dans les hôpitaux. Rendre possible des consultations pluridisciplinaires pour les adultes me paraît indispensable, comme cela est fait assez souvent pour les adultes, enfin pour les enfants, pardon, et les ados. Donc, jusqu'à 16 et 18 ans, ça fonctionne. Ben, et après, une nouvelle errance, car les spécialistes, que ce soit les neuros, les urologues, les médecins de la douleur, la MPR, etc., etc., exercent dans plusieurs hôpitaux différents, voire plusieurs services. C'est bien sûr, c'est un vœu pieux que de vouloir synchroniser plusieurs rendez-vous de spécialistes dans un même déplacement. Quand on est loin d'une grande ville, quand les patients sont éloignés d'un centre de référence, c'est très compliqué. Alors imaginez, hein, quand vous habitez loin d'un centre de référence, il faut des consultations pluridisciplinaires. Il faut que les soins soient organisés autour du patient et non pas l'inverse. Je pense que je résumerai à ça, le patient au cœur du système, tout un programme qui est à travailler. Je parlerai aussi, l'enjeu majeur pour nous aujourd'hui, c'est notre actualité, c'est le suivi des patients adultes. Un centre de référence pour adultes fonctionne différemment qu'un centre de référence pédiatrique. Donc c'est regrettable car les personnes porteuses de spina bifida vieillissent et les centres de référence intègrent rarement toutes les disciplines nécessaires au suivi d'un spina bifida. Il faudrait pouvoir remédier à cela et s'en occuper sérieusement. Car un autre point, j'enchaîne sur le vieillissement. Oui, un adulte handicapé qui vieillit voit s'ajouter des pathologies du vieillissement à celles qu'il gérait jusqu'alors. Et tout se complique car il est difficile pour un généraliste de faire le lien entre les spécificités du spina et le vieillissement. Donc la prise en charge en gérontologie des patients spina bifida est une nouveauté, je dirais, qui doit être intégrée dans nos préoccupations. On cerne bien la transition ado-adulte aujourd'hui, on en parle depuis de nombreuses années et on y travaille. La transition adulte à senior est un vrai sujet d'actualité. C'est en tout cas ce à quoi nous nous attelons.
Eh bien, merci mille fois, Madame Vintras, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître cette maladie rare qu'est le spina bifida. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou notre site internet, www.rarelecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette pathologie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite.